Je m'appelle Riyad. En 1992, j'avais 14 ans et je n'étais pas terrible. Coiffure asymétrique pour cacher le crâne d'œuf. N'ose pas regarder dans les yeux. Voûté, car peureux. Pense toujours qu'il est sublime et tout frépondu et ne se rend pas compte qu'il est un cas social. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous ne vous considérez plus comme un cas social?
Non, enfin disons que même l'expression cas social est un petit peu, exagérée, et c'est aussi dans le livre, je l'ai mise parce que c'était quelque chose que répétait tout le temps ma mère avait très peur qu'on soit des cas sociaux, et que signifie cas social? On est tous un petit peu des cas sociaux.
Sans doute, on est tous le cas social de quelqu'un, comme on dit. Voilà en tout cas donc votre autoportrait au début du 5e volume de L'Arabe du Futur, sorti il y a quelques jours aux éditions Alary. D'abord et avant tout, dans ce 5e volume, vous êtes adolescent. Il y a cet événement familial lié à votre père qui bouleverse toute votre famille, qui occupe une grande part de ce 5e volume, mais que nous ne révélerons pas. Mais vous êtes, en dépit de cela, avec ça, si l'on peut dire, adolescent, avec tout ce que ça veut dire de doute, de tempête émotionnelle, de peur, de grandes questions, de grandes révélations, au fond, de construction.
Oui, c'est vrai que cet événement dramatique, ce crime de mon père, justement, c'est une violence qui, à cette époque-là, agissait un petit peu comme une tempête. Alors c'est vrai que je raconte aussi dans ce livre à quel point c'était tellement extrême comme événement que je n'arrivais pas à être triste et qu'en fait vous savez, c'est comme quand il y a une explosion nucléaire, on se rend pas compte que on a l'impression qu'on a survécu. En fait, il y a une radioactivité partout. On s'en rend pas compte. C'est aussi ça un petit peu que raconte ce livre. C'est que soudain, le monde a complètement changé. Et la description du monde et la façon dont je voyais le monde. Et c'est vrai que l'adolescence, qui est quand même une période très particulière où les êtres humains se transforment, on est des sortes de mutants, il y en a qui grandissent plus vite que d'autres, il y en a qui s'en sortent plus mieux que d'autres, etc. Et c'est un moment où on est extrêmement sensible, où toutes les émotions sont poussées à leur paroxysme, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que je voulais aussi illustrer et raconter ce que c'était que de vivre quelque chose comme ça à cette époque-là, qui est une époque où finalement après on grandit avec les traces de ce genre d'événements.
Et il y a effectivement dans l'adolescence ce caractère définitif en toute chose. Anaïk, la fille qui vous plaît au collège, c'est la femme de votre vie. Lovecraft, l'auteur que vous découvrez à ce moment-là, c'est la chose la plus extraordinaire jamais lue. Tout est important.
Oui, c'est vrai, oui. Et je me rappelle, quand j'avais fait mon premier film, Les Beaux Gosses, en 2008, j'avais rencontré une classe de collégiens qui étaient en troisième, etc. Et il y a plusieurs élèves m'avaient expliqué que c'était vraiment le meilleur film qu'ils avaient vu de leur vie. Et alors, je trouvais ça marrant parce qu'en effet, quand on n'a rien vu d'autre, quand on a rien expérimenté de la vie.
Ne vous sous-estimez pas, c'était peut-être vraiment le meilleur film.
Mais ce qui est drôle, c'est justement quand toute première émotion ou toute émotion qu'on ressent et semble en effet définitive, et c'est aussi rigolo à explorer, parce que ça représente bien aussi ce qu'est l'adolescence, où on se dit, ah, cette fois-là, j'ai expérimenté l'amour, c'est terminé. Bon, c'est vrai que quand je raconte ça, j'avais des amis avec qui on était intimement persuadés qu'on serait célibataire jusqu'à la fin des temps, et en fait, on le croyait vraiment intensément, qu'on n'arriverait jamais à parler à qui que ce soit, à plaire à qui que ce soit. Et cet aspect désespéré dans l'adolescence, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup.
Alors justement, on sait, Riyad Satouf, l'affection, l'intérêt que vous avez pour ce moment de la vie qu'est l'adolescence. Et justement, sachant cela, est-ce que ce 5e volume de L'Arabe du Futur, vous aviez une hâte, une envie, une excitation particulière à l'écrire?
Ben, pas plus que les autres. C'est vrai que l'histoire de L'Arabe du Futur, c'est une histoire qui est dans ma tête depuis le début, donc depuis que j'ai commencé avec le tome 1.
En
2014. Et donc c'est vrai que finalement les livres se sont un petit peu écrits tout seuls avec le temps. Et c'est surtout, je me rends compte de choses assez étranges, comme le fait par exemple que ce tome 5, j'ai le même âge que mon personnage dans Les Cahiers d'Esther, qui est une véritable jeune fille. Et j'avais pas prévu ça au départ, mais le fait que ces deux personnages arrivent comme ça au même moment de leur vie, C'est quelque chose qui m'a surpris parce que j'avais pas réalisé ça. Mais maintenant, le fait d'avoir hâte de raconter cette période, pas tellement parce qu'à chaque fois que je me replonge dans un arabe du futur, j'ai plutôt la sensation de me mettre dans un petit bain glacé. Mais il faut quand même, enfin pour moi en tant qu'individu, en tout cas, j'ai besoin d'y retourner et de faire ces livres, ça c'est sûr.
Et ce parallèle justement donc entre le vous de l'époque qu'on trouve dans cet arabe du futur 5 et Esther aujourd'hui, est-ce que ça vous conforte dans l'idée justement qu'il y a des constantes dans ce moment de l'adolescence, quelle que soit l'époque?
Bien sûr, non, c'est vrai que c'est quelque chose de stupéfiant. Alors c'est vrai que Esther, c'est une jeune fille donc qui existe réellement, avec laquelle je fais des bandes dessinées, donc c'est une jeune fille qui appartient plutôt à ce qu'on appellerait la catégorie des populaires et qui n'était absolument pas la catégorie à laquelle mes amis et moi on pouvait appartenir. Donc, mais c'est exactement la même chose. Rien n'a changé. Il y a une chose qui n'est absolument pas quelque chose de radicalement différent entre ma génération et peut-être celle d'aujourd'hui. C'est que pour Esther, le monde a considérablement rétréci, alors que pour moi, le monde était immense et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, on savait pas ce qu'était le reste du monde en fait. Et quand je regarde une carte,
et pourtant il était plus grand.
Oui, et c'est vrai que il était plus grand à cause de son obscurité en fait. C'est vrai que quand je regarde aujourd'hui, si vous faites un tweet, quelqu'un vous répond immédiatement à Tokyo ou immédiatement à Nouakchott ou je sais pas. À mon époque, je me rappelle dans le petit village qu'on habitait en Syrie, il fallait un mois et demi pour que les Tintins que m'envoyait ma grand-mère bretonne finissent par arriver dans ce village. Ça semblait être vraiment un voyage galactique, quoi. Donc c'est vrai que pour Esther, elle a son téléphone, le monde n'a quasiment plus de mystère, quoi.
Alors le monde, justement, le monde et la BD, c'est aussi, Riyad Satouf, à cette période, que le dessin devient votre univers, et précisément, ça n'est pas qu'une expression, c'est un monde pour vous, celui où vous décidez d'habiter.
Oui, c'est vrai. C'est aussi ça que raconte cette bande dessinée, c'est que à un moment, comment on fait avec son identité personnelle, j'arrivais pas à concilier le fait d'être d'origine syrienne musulmane, enfin de famille musulmane et breton. Dans les deux aspects de ces familles, j'étais j'étais pas vraiment complètement intégré. Donc c'est vrai que très rapidement je me suis pris de passion pour le monde des personnes qui écrivent des livres, et avant même de lire les livres eux-mêmes, en fait j'aimais la posture de l'écrivain ou du dessinateur qui est à sa table et qui raconte des choses toute la journée, qui essaie de réfléchir à ses livres, etc. C'était un peuple que j'avais envie de rejoindre, en effet.
Alors dans ce cinquième volume, vous habitez à Rennes, et on parlait de l'adolescence, de l'identité. Justement, l'adolescence est aussi la construction par le regard des autres. Par exemple, vous devenez arabe aux yeux de vos copains dans cette BD, vos copains qui découvrent que vous êtes syrien à l'occasion d'une discussion sur Lovecraft, et qui trouvent ça génial et mystérieux d'être syrien, et donc leur regard sur vous change.
Oui, c'est vrai. Alors c'est aussi quelque chose que je voulais raconter, parce que l'identité d'être comment dire, arabe entre guillemets, c'est pas quelque chose d'aussi évident que ce qu'on pourrait le penser. Par exemple, moi je sais que la Syrie, par exemple, quand j'étais au collège, où personne savait où c'était, quasiment personne. Les gens savaient pas vraiment si c'était un pays arabe ou autre. C'est vrai que Satouf non plus, c'est pas directement un nom arabe. Mais j'étais pas identifié tout de suite comme quelqu'un d'origine arabe. J'avais une origine bizarre, mais je ne savais pas. Et c'est vrai que j'arrivais pas à partager ça avec les autres. Si j'expliquais que j'avais grandi dans un pays arabe, on me disait mais t'es pas un vrai arabe parce que t'as pas l'air d'un arabe. Et c'est vrai que là, je suis devenu un arabe par Lovecraft. Parce que mes copains qui étaient des fans de cet écrivain m'ont immédiatement assimilé à l'arabe fou Abdul Al-Azred, qui est mort à Damas et qui avait écrit le Necronomicon. Et donc, ils trouvaient ça extrêmement cool que je sois syrien. Et c'est la première fois où on...
La chance que t'as
Et surtout que j'ai habité là-bas. C'est-à-dire pour eux, c'est comme si j'avais habité dans les cités interdites de Lovecraft. Donc c'était...
Et alors justement, cette identité, c'est aussi cette bande de jeunes à capuche basket qui vous embêtent dans la rue et qui, eux, ne veulent pas vous croire quand vous leur dites « je suis arabe » en espérant que ça vous aide un peu. C'est aussi par ce genre de choses donc, que passe la construction de l'identité.
Oui, c'est vrai que de toute manière, on essaie toujours. Enfin, moi, je sais que quand j'étais ado, comme énormément d'adolescents, enfin, c'est un des trucs les plus universels du monde de se faire emmerder dans la rue par des mecs et tout. C'est vraiment. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours de s'en sortir. Et c'est vrai que moi, j'aurais rêvé. Je rêvais à cette époque-là que mon appartenance identitaire soit plus claire qu'elle ne l'était. J'aurais aimé ou être 100% français, une espèce de grand blond extrêmement musclé comme je l'imaginais, ou être vraiment comme mes cousins syriens qui avaient vraiment des physiques orientaux et qu'on pouvait vraiment identifier tout de suite comme étant. Mais j'étais cette espèce de créature entre les deux et donc c'était une position très inconfortable, mais qui, je pense, m'a beaucoup servi parce que ça m'a permis d'être dans la posture d'un observateur et de ne jamais croire vraiment aux vertus de l'appartenance identitaire.
Vous étiez ni l'un ni l'autre complètement, et puis en plus, gros problème, c'est que vous étiez invisible, en tout cas c'est ce que vous dites
bon, à ce moment-là. Invisible dans le sens de tous ces jeunes qui passent dans la rue et qu'on ne regarde pas tellement. Voilà, j'avais rien d'extraordinaire en fait, c'était surtout ça. Alors je me suis raccroché évidemment au dessin, c'est ce que je raconte dans l'Arabe du futur, mais j'étais bien loin d'être un génie du dessin. J'ai rencontré tellement de filles et de garçons qui étaient tellement plus forts que moi dans ces années-là, mais qui finalement n'avaient pas tellement d'intérêt non plus à ce qu'ils faisaient en fait. Voilà. Moi, j'avais beaucoup d'intérêt à mes petits dessins pas très bien réussis, mais je me disais, c'est par là que je dois essayer de m'en sortir.
Oh, enfin, pas très bien réussi, même si quand même, il y a dans cet album cette prof d'art plastique qui, au moment où elle vous demande un peu à la classe qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous gronde parce que vous avez mis autre chose que dessinateur et qu'elle vous dit, toi, tu seras dessinateur, point.
Oui, c'est vrai, oui. C'était une super prof qui s'appelle Madame Chapalin. Et en fait, elle ne me l'avait pas dit qu'à moi, en fait. Elle avait dit aussi à un autre copain qui est dans ma classe, qui était d'ailleurs bien meilleur que moi. Mais c'est vrai que ça, c'est des. Voilà, il y a des professeurs qui rendent les choses possibles dans la tête. Moi, je me rappelle quand j'étais en sixième, j'avais été soudain, pour une raison mystérieuse, un jour, j'étais devenu très bon en mathématiques. Et j'avais un prof qui était en admiration devant mes capacités en géométrie et qui n'arrêtait pas de me dire, toi, il faut que tu fasses des maths, faut que tu fasses, t'es un mathématicien, c'est sûr. Voilà, ça n'a aucun, c'est aussi de valoriser l'élève et de rendre possible dans sa tête des capacités futures, quoi. Mais c'est vrai que cette prof, voilà, elle m'a bien encouragé et c'est elle qui a rendu les chose aussi possible dans ma tête.
Parce que ça vous était accessible, en tout cas quelqu'un vous le disait. Vous disiez tout à l'heure, Riyad Satouf, que voilà, vous étiez invisible, ou en tout cas vous considériez comme transparent, rien d'extraordinaire, les copains, les filles, tout ça. Vous parlez dans cet album, et ça aussi c'est vraiment l'adolescence, de ceux qu'on appelle les populaires, mais vous en parlez plutôt comme des dominants ou les très beaux.
Oui, c'est vrai. Alors bon, on emploie plein de termes. C'est vrai que moi, très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait en effet un classement hiérarchique entre les êtres humains, que tout le monde n'avait pas la même place sur ce classement. Bon, qu'on pouvait quand même passer d'une classe à l'autre, quand même s'en sortir. C'était plus dur pour d'autres, plus facile pour certains, mais c'est toujours intéressant à observer, de voir comment ça continue aussi à l'âge adulte et tous les palliatifs qu'on peut trouver pour passer d'une classe à l'autre. Alors moi, c'est vrai que c'était le dessin pour essayer de me faire accepter par ces personnes. Mais on se faisait accepter jusqu'à un certain niveau, quoi. Fallait pas aller trop loin non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très amusant et on se rend compte que enfin, j'ai des souvenirs très nets de m'être dit que vraiment on était comme des singes, quoi, des primates dans une clairière, quoi. On a tous vu ces documentaires avec le dominant qui est à côté d'un rocher, et puis il y a les singes complètement soumis qui sont à la bordure du groupe et qui essayent de se faire intégrer. Donc c'est exactement comme ça. C'est très rigolo à vivre avec le recul.
Quoi. Avec le recul surtout, oui. Alors ce qui est intéressant quand même, Riyad Satouf, voilà, il faut mentionner que en même temps que ce volume 5 de l'Arabe du futur, il y a ce bel album de Reporters sans frontières, sans dessin pour la liberté de la presse, qui vous est consacré. Et dans lequel plusieurs personnes parlent de vous, nous y reviendrons, mais en voyant dans votre travail une dimension sociologique que vous ne revendiquez jamais, même que vous repoussez un peu. À chaque fois, vous dites que non, que l'intention n'est pas celle-ci. Vous dites, je m'en tiens au réel, aux choses comme elles se sont passées. Est-ce que cette distance, cette position, c'est finalement un peu la condition de votre liberté?
Bah peut-être, oui, c'est vrai. Puis alors surtout le comment dire, pour moi la sociologie c'est quand même quelque chose de scientifique, enfin c'est une discipline quand même assez pointue. Bon, moi j'ai fait des bandes dessinées sur les choses que je voyais dans la rue. Si des sociologues peuvent y voir quelque chose d'intéressant, ça me fait extrêmement plaisir, mais je pourrais pas dire que moi je suis sociologue, j'ai jamais fait d'études de sociologie. J'ai eu grand peine à avoir mon bac et donc c'est vrai que c'est un peu prétentieux ou pompeux de se réclamer de ce genre de choses, mais c'est vrai que l'observation de ce que je voyais, ce que je vois dans la rue et qui selon moi n'est pas souvent représenté, c'est aussi une des raisons pour laquelle je le fais. Je me dis, tiens, mais moi j'ai vu ça, pourquoi personne n'en parle jamais, pourquoi on voit pas cette description là du monde nulle part. Et c'était déjà quelque chose qui était présent dans ma tête. Je me rappelle même dès le collège où quand je regardais ces séries qui s'appelaient Premier baiser ou Hélène et les garçons, etc. Je me disais, mais c'est pas possible que tous les gens de ce collège s'identifient à ces personnages complètement irréalistes, alors qu'en fait le réel n'est pas du tout comme ça. Donc voilà, j'étais très désireux de raconter les choses comme je le voyais.
Donc il n'y a pas de, voilà, vous n'êtes pas sociologue, mais il y a quand même une intention de mettre le doigt sur.
Ah oui, moi ça me plaît de, voilà, quand je vois un truc qui m'intrigue ou qui m'énerve ou qui m'interroge, j'ai envie de le représenter et puis de me dire voilà qu'en pensent les autres, que peut penser mon lecteur de cette chose.
Alors il y a aussi dans cette distance peut-être dans ce que vous dites de la religion ou des Arabes, puisque vous employez ce mot très très simplement dans votre album. L'adolescence c'est aussi l'imaginaire et c'est aussi pour vous vos réflexions justement sur les religions, sur le paranormal. Vous êtes à la fois critique et curieux, vous vous intéressez à ce moment-là de votre vie au spiritisme, à la figure de Satan, de Lilith. Vous en arrivez à la conclusion que les mythes fondateurs des religions ont comme point commun la haine de la liberté sexuelle et la domination de l'homme sur la femme. C'est ce qu'on disait, c'est un peu les grandes révélations.
Bah oui, c'est en général c'est à cet âge-là qu'on se rend compte de ces choses-là, ou qu'on, parfois on se rend compte, mais aussi on refuse de le voir ou de l'admettre. Et c'est vrai que moi j'ai eu toute une époque où j'étais complètement fasciné par le monde des esprits, etc. Je voulais. Mais alors c'est vrai que dans ma famille tout le monde était plus ou moins croyant, ou alors du côté de mon père ils étaient tous musulmans, mais du côté de ma grand-mère ils étaient pas chrétiens, mais ils avaient une vision du monde des esprits. J'avais des grand-mères qui étaient censées avoir été médiums, qui faisaient tourner des tables, etc. Et donc cette espèce de cadre donnait surtout l'impression qu'on avait un destin, enfin en tout cas que ce qui nous arrivait semblait être gouverné par des forces obscures auxquelles on n'avait pas accès, et ça me troublait beaucoup. Mais alors je n'ai jamais assisté au moindre phénomène paranormal, si ce n'est au succès de l'Arabe du futur, qui pour moi est le seul vrai phénomène paranormal et magique auquel j'ai jamais assisté.
Et puis il y a l'humour tout de même, vraiment toujours. Votre mère, vos grands-parents sont bouleversés et désespérés par ce qu'a fait votre père dans cet album, et vous, petit riad adolescent, vous arrivez à les faire rire, vous arrivez à enlever du drame au drame.
C'est vrai que je crois que peut-être aussi c'est ça qui est intéressant dans l'humour, c'est que ça rend aussi les choses tragiques, même peut-être encore plus tragiques, tout en les soignant, parce que je sais que voilà, dans ma famille souvent ils répétaient en boucle leurs problèmes, ils commentaient tout le temps l'histoire du truc qu'avait fait mon père, etc. Et au bout d'un moment, je voyais bien que c'était comme un entonnoir dans un évier, ça s'enfonçait de plus en plus, et c'était de plus en plus déprimant. En fait, l'ambiance était horrible. Et donc, pour faire remonter ou détendre la pression, il était important de faire des blagues et de rire justement de cette histoire, de ce malheur. Et je me rends compte que c'est peut-être à cette époque-là que j'ai pris cette espèce d'habitude d'essayer de faire de l'humour avec des trucs qui ne sont pas forcément rigolos de base.
Vous continuez?
Ouais, je pense, je continue aujourd'hui avec ma BD, c'est ça, exactement.
Et peut-être que ça aide un petit peu à vivre dans certains moments. Riad Satouf, nous vous retrouvons dans 3 minutes sur France Culture, puisqu'il est 7h30. Il est 7h33 et nous retrouvons notre invité culture, Riyad Satouf, avec nous ce matin pour le 5e volume de votre série Riyad Satouf, l'Arabe du futur, mais aussi pour l'album de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse qui vous est consacré. À acheter tout cela dans les librairies qui font du retrait de commandes. J'ai vu que vous disiez ça pour click and collect et après tout, vous avez bien raison. Vous avez pris la parole sur cette fermeture des librairies. Vous avez publié un dessin en faveur de leur ouverture. Vous dites que les librairies sont vos endroits préférés au monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une librairie, Riyad Satouf?
Lorsqu'il y a eu le premier confinement, c'est vrai que le syndicat des libraires indépendantes ne voulait pas ouvrir parce que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies. Et là, ils estimaient que c'était possible. Donc c'est vrai que pour moi, bon, en tant que personne qui fait des livres, pour moi évidemment j'adore les livres, je passe ma vie dans les librairies, donc pour moi c'est un bien essentiel. Mais c'était aussi l'idée de dire que il y a eu aucun mot sur la culture dans le discours du président de la République, alors que c'est quand même un symbole. Enfin, c'est quelque chose de. Il y avait une absence de symbole, de parole sur la culture que je trouvais complètement hors de. Par exemple, dans ma rue. Enfin, je sais pas. Dans ma rue, il y a quatre cavistes, par exemple. Qui... Alors moi, j'adore le vin aussi. Hein, j'aime beaucoup le vin. Mais alors, pourquoi quatre cavistes? On n'a pas besoin de vin non plus. C'est pas un bien essentiel. si on réfléchit à ce qui est essentiel ou pas, il y a trois charcutiers, quatre cavistes, et la librairie, elle est fermée. Voilà. Il y avait quelque chose de très bizarre. Alors, dans tous les pays européens autour de nous, ils ont laissé les librairies ouvertes d'un point de vue, voilà, comme, sauf en Irlande et au Pays de Galles. Donc moi j'aimais bien les Belges qui ont dit que c'était pour la santé mentale des Belges, ils laissaient les librairies ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'on va aller tout de suite dans une librairie s'acheter l'intégrale de Proust quand on est en confinement, mais de savoir qu'il y a cette possibilité-là, moi, je trouve que c'est dommage de la fermer.
Et c'est vrai que c'est une différence assez notable avec le premier confinement, au-delà de ouverture-fermeture, même effectivement, vous le disiez, le discours et peut-être un petit peu ce mouvement de considérer ou pas la culture comme un refuge, comme un bien précieux, comme quelque chose qu'il faut peut-être sauver ou en tout cas dont il faut prendre soin.
Bah oui, c'est vrai. Et aussi de considérer voilà la culture uniquement sous l'aspect de commerce, qui existe, il est vrai, mais de se dire c'est un commerce comme un autre. Moi, je trouve que c'est pas complètement un commerce comme un autre. Et les théâtres et les cinémas non plus, ça représente autre. Enfin, c'est pas des librairies, cinéma et théâtre, ça n'est pas répandu partout sur Terre, malgré ce qu'on pourrait croire. Il y en a pas dans tout. Il y a de très nombreux pays où il y en a pas. Mmh. Et donc, c'est vrai que le fait de ne pas les considérer comme quelque chose de spécial ou d'avoir un mot pour eux, moi, j'ai trouvé ça très choquant.
Pas partout sur Terre, et puis même pas partout aussi...
En France.
Oui, voilà, exactement. Dans le territoire. Il y a des endroits où, effectivement, il n'y a pas forcément de librairie, et dans ces cas-là, c'est la grande surface. Mais bon, là, ça n'est plus possible non plus, du coup, d'acheter des livres en grande surface. Alors, il est beaucoup, à juste titre, évidemment, question des libraires, Riyad Satouf, mais je voudrais que l'on parle également avec vous des éditeurs, qui ont aussi, évidemment, un rôle majeur. Pour l'Arabe du futur, c'est donc Alary Édition, édition fondée par Guillaume Alary, qui est aussi dans l'album de Reporters sans frontières et qui raconte la naissance de l'Arabe du futur, des années de bière et de discussion.
Oui, non, c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir très sérieusement à faire l'Arabe du futur, c'était après mon second film qui s'appelait Jackie au rhum des filles, qui n'avait pas rencontré du tout de succès dans les salles. Et donc, en effet, j'avais plus vraiment d'opportunités pour faire des livres, etc. Les éditeurs ne m'appelaient pas vraiment. Et donc Guillaume Alary, à ce moment-là, était en train de monter sa maison d'édition et m'a dit « Mais est-ce que si je montais cette maison d'édition, est-ce que tu viendrais faire tes livres chez moi ?» Donc moi, c'est vrai que j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai travaillé chez de très nombreux éditeurs de BD. J'ai eu la chance d'être édité un peu partout. Et pour moi, il était très important de faire ce livre, cette série de livres chez un éditeur indépendant. C'est un éditeur qui n'appartient pas à un grand groupe, qui est le tout petit éditeur. Donc je voulais faire le livre que je voulais, de la forme dont je voulais, avec le papier que je voulais, créer le livre de A à Z. Et pour moi, c'était très très important de suivre ce chemin-là. Donc c'est vrai que c'est d'abord une histoire entre deux copains, en fait, c'est vrai.
Et c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue d'éditeur. Alors, c'est une évidence, Riyad Satouf, mais votre travail repose beaucoup sur l'observation. Vous en avez parlé vous-même tout à l'heure. Ce que vous voyez, ce que vous sentez aussi. La vie secrète des jeunes, par exemple, que vous avez longtemps publié dans Charlie Hebdo, s'appuyait sur des scènes de vie vues dans le métro, sur des terrasses. Qu'observez-vous ? Qu'êtes-vous en mesure d'observer aujourd'hui ?
Ah bah aujourd'hui, justement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai un petit peu arrêté aussi. Ça fait longtemps que j'ai arrêté la vie secrète des jeunes, mais au bout d'un moment, je sais que quand je faisais des bandes dessinées strictement d'observation, j'y mettais trop de ma personnalité. Alors je sais que la vie secrète des jeunes, au bout d'un moment, ça me déprimait complètement parce que je ne voyais que des scènes affreuses de gens qui s'engueulent, de gens qui sont méchants avec leurs enfants, etc. Et je me suis dit, à un moment, j'ai besoin de prendre des vacances de moi-même parce que peut-être que c'est mon point de vue sur le monde qui n'est pas bon et que je vois que ce que je veux bien voir. Et ça a été une des raisons pour laquelle je m'étais lancé dans les Cahiers d'Esther avec cette jeune fille qui est très populaire et qui avait une façon de voir le monde complètement différente de la mienne. Et je lui ai dit, tiens, je vais la laisser me raconter un petit peu comment elle voit les choses. Ça, je vais prendre des vacances de moi-même. Donc c'est vrai, voilà, c'est pour ça aussi que quand on parle de sociologie, je peux changer de point de vue et d'avis très très vite en fait sur les choses.
Et en ce moment, quel est votre regard d'observateur sur cette espèce de deuxième confinement un peu bizarre, on se déplace mais quand même pas trop. Qu'est-ce que vous voyez ?
C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est des choses qui ont déjà existé dans l'histoire, mais surtout qui ont même à notre époque, par exemple dans les pays d'Asie, ils ont déjà eu affaire à des épidémies comme ça. Et je suis toujours étonné et stupéfié qu'on semble découvrir que comme si on n'avait pas vu que c'est déjà arrivé pas très loin de chez nous. Dans d'autres pays, on leur demande même pas comment ils ont fait pour s'en sortir. On se dit, oh là là, la catastrophe nous tombe dessus, mais elle est déjà tombée ailleurs. Il y a déjà je trouve que
On
regarde pas assez ailleurs, moi, je pense. Ça, c'est un truc totalement évident. Moi, j'étais au Japon l'année dernière et je me rappelle, il y avait des gens avec des masques partout. Et je demandais à mon ami traducteur, je disais, mais c'est incroyable, ces masques. Oui, il me dit, parce que quand quelqu'un a un rhume ou quand quelqu'un est malade, il met un masque pour pas contaminer les autres. Et moi, je sais que j'avais eu tellement de mal à faire comprendre à des copains qui me toussaient dans le nez qu'il fallait au moins mettre leurs mains devant le... Enfin voilà, on s'intéresse pas aux problèmes qu'ont rencontrés d'autres sociétés et à la façon dont ils les ont réglés aussi.
Parce qu'on manque de modestie, peut-être ?
Oui, moi je pense, c'est ça. Oui, oui. D'ailleurs, c'était une des questions que je voulais poser à votre invité de 7h45.
Ah bah alors, attendez, ne divulgâchez pas.
On va pas divulgâcher.
on va y arriver. Juste quand même, quand on vous lit, quand on lit aussi bien votre travail, d'ailleurs, que les interviews que vous donnez, et on l'entend encore ce matin à Riyad Satouf, il y a chez vous quand même une forme d'optimisme qui semble assez insubmersible. Vous le restez aujourd'hui encore optimiste ?
Oui, moi je suis très très optimiste. Alors je crois que je suis optimiste parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et donc j'ai vu plein de cultures différentes, etc. Alors notamment depuis que mes livres ont du succès. Alors je dis pas que j'ai tout vu bien à fond, mais quand on voit, c'est très difficile d'avoir une vision définitive sur l'être humain et sur le monde si on n'est jamais sorti de son village ou de son pays, même quand bien même en France, qui est un pays incroyablement privilégié par rapport à tant d'autres pays où on peut faire les livres qu'on veut, où on peut dire ce qu'on veut, où on peut manifester, etc. On oublie sans doute que c'est assez unique. C'est vrai que quand on parcourt le monde et qu'on voit à quoi sont confrontées les autres cultures, comment ils envisagent la vie, les croyances, etc. Enfin, c'est passionnant de voir, on se dit que l'être humain a toujours les mêmes problèmes à régler, il essaie de trouver chacun des solutions et j'ai l'impression qu'il va finir par y arriver. C'est pas, bon, peut-être c'est un peu optimiste, un peu niais, mais je suis pas pessimiste, non.
Panier, non plus votre choix musical, quel joli choix, Riyad Satouf, c'est la tendresse, Bourvil.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et sans trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse,
la tendresse, Riyad Sattou, votre choix musical, parce que ça fait du bien tout simplement.
Oui, bah, j'adore la voix de Bourvil. Je trouve qu'elle agit immédiatement comme un truc assez décontractant. On oublie souvent le. Puis c'est vrai qu'il a le Bourvil chanteur est peut-être moins connu que le Bourvil acteur, mais j'adore ses chansons. Puis c'était le premier à avoir interprété ce morceau hyper connu.
Oui, qui a été repris,
repris plein de fois
par beaucoup d'autres. Ensuite, Riyad Sattou, vous restez avec nous. Beaucoup moins joli que Bourvil et la tendresse.